Et si on jouait ce matin les grandes voix au jeu des sept familles ? Dans la famille de la gauche, je voudrais les socialistes, les écologistes, les communistes, les insoumis. Eh bien, figurez-vous qu'ils sont tous là, ou presque, réunis depuis quelques minutes maintenant dans un hôtel du 19e arrondissement, dans une pièce à l'abri des caméras. Yannick Jadot, Anne Hidalgo, Benoît Hamon, Éric Coquerel, ou encore Olivier Faure, le premier secrétaire du PS, qui était l'invité politique d'Europe 1 ce matin. Et voici ce qu'il attend de cette réunion.
Je veux que ce soit quelqu'un qui incarne cet ensemble-là, qui dise ce que je vais faire pendant les 5 prochaines années, un contrat de coalition, un accord de gouvernement avec des gens qui sont prêts à gouverner ensemble. Voilà ce que je souhaite. Qu'on en finisse avec ce bal des égos qui est insupportable et qui finalement eh bien, rend tellement pessimiste notre pays, qui a tellement le sentiment que cette gauche ne sert plus à rien.
Michel Cotta, est-ce que cette réunion va suffire à prouver que la gauche ne sert plus à rien ?
Naturellement non, parce que ce n'est pas en une réunion qu'on arrivera à ça, mais il faut quand même noter que ce qui est intéressant, c'est que là-dedans, c'est Jadot qui a pris l'initiative. Ce n'est pas le Parti Socialiste, ça n'est pas les écologistes en tant que tels, c'est Jadot tout seul qui ne consent pas à
initiative
attendre.
Initiative personnelle.
Initiative personnelle, mais qui n'est pas désignée par les siens, pas encore désignée par les siens, puisqu'il a suffi qu'ils mettent un nez dehors pour qu'immédiatement Éric Piolle ou Julien Bayou disent « Oh là là, pas de hold-up sur l'Union ». Donc on voit bien que c'est sa volonté seule. Est-ce qu'il sera capable d'imposer sa volonté aux Verts, qui sont divisés ?
Est-ce qu'ils veulent leur propre primaire ?
Est-ce qu'il sera capable de convaincre le Parti Socialiste, et notamment Anne Hidalgo ou Olivier Faure, que c'est avec lui qu'il faut s'unir ? Et troisièmement, qu'est-ce qu'il dira Jean-Luc Mélenchon ? On voit bien que c'est les trois problèmes auxquels il se heurte ce matin, pour la première fois.
Jean-Luc Mélenchon, qui n'est pas présent puisqu'il est en Amérique du Sud, qui a envoyé Éric Coquerel et qui dit « Moi, je veux juste un pacte de non-agression ». Ça sert justement à ça, uniquement à cela, cette réunion, Charles Villeneuve ?
Moi, je pense que c'est le poids des électeurs, d'abord de gauche, qui veulent cette union. Et puis, Jadot a profité aussi de son très bon score aux élections européennes pour provoquer cette réunion. Moi, je la trouve un peu tardive. D'ailleurs, Michel Cotta le soulignait. Vous savez, François Mitterrand, dès qu'il s'est emparé du Parti Socialiste en 1969, a commencé à construire le programme commun. Et il y est parvenu en 1981. Bon. Et donc, il a pris du temps. Il aurait fallu commencer beaucoup plus tôt. Il ne faut pas être péremptoire et se dire que de toute façon, que rien ne sortira de cette réunion. C'est vrai qu'ils ne sont pas d'accord sur l'essentiel, pas d'accord sur la vision de la France, pas d'accord sur l'économie, pas d'accord sur les valeurs de la République par rapport notamment à la question de la laïcité. À partir du moment où vous n'êtes pas d'accord sur l'essentiel, c'est difficile de trouver un candidat commun.
Pour ajouter l'Europe.
Mais il faut commencer, parce que c'est vrai que ça peut produire quelque chose.
Alors, est-ce que Gérard Carrérou...
Oui, je vais être péremptoire, parce que Charles dit qu'il ne faut pas être péremptoire. Je vais être péremptoire. Je me disais, au fond, une réunion comme ça, ils vont tous y aller, ça va être du blabla pendant 2 heures ou 3 heures, etc. Et qu'est-ce qu'il en sortira ? Et puis je cherché un petit peu dans ma tête, je me dis, qu'est-ce qu'il peut en sortir ? Je me suis souvenu d'une phrase qui m'avait frappé à l'époque, qui n'a rien à voir, vous allez voir que ça n'a rien à voir, mais... Quand le ministre des Affaires étrangères de Mitterrand, qui s'appelait Claude Cheysson à l'époque, il y a un coup d'État en Pologne qui institue le maréchal Jaruzelski. Et Europe 1 interroge le maréchal, Claude Cheysson, et lui dit « Monsieur le ministre des Relations extérieures, qu'est-ce que vous allez faire ? Qu'est-ce que la France va faire ?» Et Cheysson, après 3 secondes, où il ne dit rien, dit « Évidemment rien. Évidemment rien. » Eh bien, cette réunion, elle me fait penser à ça. Que va-t-il en sortir ? Évidemment, rien. C'est du cinéma. Alors, Charles disait pour les électeurs, bien sûr, les électeurs de la gauche, depuis l'époque de la gauche unie, ils ont une nostalgie. Donc, il faut de temps en temps leur donner un peu les attributs de l'unité comme si elle existait encore. Elle n'existe plus, c'est un vieux rêve. Mais là, il ne va rien sortir puisqu'il y a déjà 3 candidats. Et ces 3 candidats ne renonceront pas. Et il y en aura peut-être un 4e. Donc, de toute façon, c'est du cinéma pour montrer qu'on fait quelque chose en ne faisant rien.
Est-ce que cette pluralité de candidats, même s'il n'y a que Jean-Luc Mélenchon officiellement déclaré jusqu'à présent et qui n'est pas là ce matin, on se souvient, vous faisiez référence...
Il y a aussi le candidat communiste
qui doit être encore adoubé par les militants. Mais en effet, il a été nommé par le parti.
Il est déjà parti en campagne. Il est déjà parti en campagne.
Absolument. Vous faisiez référence au passé avec votre expérience politique, Catherine Ney. François Mitterrand, quand il a gagné en 81, il y avait plusieurs candidats à gauche, mais il avait déjà été candidat
et puis il
avant.
Il avait déjà été battu en 74.
Sauf qu'il était candidat unique
et
à cette
65,
époque. Donc qu'est-ce que voilà
en
65 et 74.
On ne peut pas comparer ce qui n'est pas comparable. Oui. Bon, et puis je vais vous dire, quand François Mitterrand était candidat, sa candidature n'était pas disputée. C'était
elle était
lui.
Naturelle.
Bon, elle était naturelle parce que. Enfin, il l'a
malgré
imposé.
Michel Rocard.
Oui, à part Michel Rocard qui s'est toujours planté, mais bon, mais enfin bref, il a fait ce qu'il a voulu et il a fini par l'emporter. Et a duré 14 ans à l'Élysée, ce qui est un record absolu. Bon, on n'en est plus là du tout aujourd'hui.
Mais on ne peut pas comparer Blanche-Neige et les sept nains.
Voilà, exactement. Non, mais pour Jadot, il fait une opération politique parce qu'il dit, voilà, d'abord, vous voyez, c'est un grand type qu'on a vu jeudi. Moi, je me suis dit, on va voir un homme nouveau qui va peut-être drainer les auditeurs ou les téléspectateurs derrière lui. Ça a été un bide. Voilà. D'ailleurs, l'émission a été très mauvaise parce qu'il a dialogué avec Bruno Le Maire. Et ils se sont marchés dessus en parlant. On ne comprenait absolument rien à ce qu'il disait, donc c'est raté. Mais enfin, il existe. Il a créé cette réunion dont il ne sortira rien aujourd'hui. Bon, mais c'est vrai que là...
Peut-être un agenda.
Peut-être un agenda. Et peut-être même, il voulait dire 10 sujets sur lesquels on pourrait travailler, sur des sujets. Bon, mais l'intéressé qui est sûr, qui veut absolument y aller, c'est
Jean-Luc Mélenchon.
C'est Jean-Luc Mélenchon qui, dès qu'il a du vague à l'âme, part en Amérique latine. Pendant un temps, quand il avait du cafard, il allait au Venezuela voir Hugo Chavez qui gagnait. Maintenant, il n'en parle plus parce que c'est un tel désastre, Hugo Chavez, comme le pays est à terre. Alors maintenant, il est remonté un peu plus haut.
Il est mort, hein,
et il est mort, mais son Maduro, et Maduro, son successeur, n'est pas mieux et le pays est complètement par terre. Alors maintenant, il va à Quito, dans la capitale de l'Équateur, parce qu'il connaît le président qui vient d'être élu, d'ailleurs, pour comme s'il voulait se, voyez, profiter de sa victoire pour être auprès de lui. Et puis en juillet, quand il pensait, il y a deux ans, quand il pensait que la justice pourrait le condamner, parce qu'il avait secoué des policiers indûment, eh bien, il se comparait à Lula qu'il avait été voir en prison. Donc il y a cette espèce de romantisme.
Ah, Lula, remarquez,
il en est sorti. Lula en est sorti. Bon, voilà, mais Mélenchon n'a pas été mis en prison. Donc il y a cette espèce de romantisme-là qui n'appartient qu'à lui. Et en tous les cas, il veut être candidat, il se rend candidat, il ne lâchera pas. Il a besoin, pour être candidat, d'avoir le soutien des élus communistes pour avoir ses parrainages. Est-ce que Fabien Roussel, qu'il soutient, va les lui donner? Fabien Roussel a dit que oui. Est-ce que le candidat communiste sera candidat alors qu'il y a 2 à 3% de gens qui veulent bien voter pour le Parti communiste? Vous voyez, tout ça, moi je suis sûre d'une seule chose, c'est que Mélenchon, de toute façon, sera candidat et qu'on ne peut espérer éventuellement qu'un accord entre les écologistes et le PS.
Alors, tout à fait, l'analyse de Catherine est tout à fait vraie. Aucune force ne poussera Mélenchon à s'en aller. Et alors, je voulais simplement vous citer, parce qu'il est allé à l'Équateur pour soutenir son candidat qui a été malheureux. Et le seul tweet qu'il a envoyé de là-bas, alors que tous ces hommes étaient en train justement de préparer cette réunion, il a analysé l'échec du candidat équatorien en disant « Les écologistes n'ont pas voté pour lui. Il a perdu 1,5 million de voix. » La droite a gagné. C'est-à-dire que c'était vraiment un message adressé. Alors, pour le reste, quand même, si on veut chercher des points de comparaison et des points de convergence entre les socialistes et les verts, on peut quand même les trouver. Oui. D'ailleurs, il y a un texte de Benoît Hamon cette semaine qui n'était pas à l'époque arrivé à fédérer quoi que ce soit. En tout cas, qui donne un certain nombre de thèmes sur lesquels il pourrait très bien être d'accord. Ça veut dire que ce n'est pas sur les programmes que ça se discute, c'est sur les hommes.
On continue à parler.
Est-ce que je peux prendre le sillage de Michel? Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Au fond c'est du baratin. Aujourd'hui, l'alliance ou pas l'alliance des partis ou des particules ou des mini-partis. Ce qui compte, effectivement, il n'y avait qu'un chemin possible. Il y a peut-être encore, d'ailleurs. Mais ce chemin possible pour la gauche, c'était un candidat commun, socialiste, écologiste, en fonction du rapport de force de la dernière fois et des écologistes dans les villes, etc. c'était Hidalgo qui, normalement, devait l'incarner. Il semblerait qu'elle ait plutôt mal commencé. Ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas se relever. Mais pour l'instant, et ce chemin, à mon avis, il est
pas fait. Et puis aussi, les Verts veulent ils sont dominants aujourd'hui. Donc, c'est vrai qu'ils veulent imposer leur loi et pas être numéro 2.
La gauche divisée, la droite aussi, la République En Marche qui n'est pas vraiment un parti, le RN incarné mais avec de moins en moins de militants, on continue à parler de cette recomposition politique et de la campagne de 2022 en période Covid qui s'annonce sans précédent dans un instant. À tout de suite.
Europe 1, Sébastien Guillaume.
Avec le débat des grandes voix, Charles Villeneuve, Gérard Carrérou, Catherine Ney, Michel Cotta, jusqu'à 11h, on parle de la présidentielle 2022. C'est dans un an avec cette réunion de la gauche. On en parlait dans la première partie de ce débat. On va parler maintenant de la droite, là encore. Il y a un problème d'incarnation, Charles Villeneuve.
Écoutez, le problème de la droite, il est double. Ils ont un problème de stratégie politique par rapport à Macron et par rapport à Marine Le Pen. Vous avez un sondage, une étude qui a été faite il n'y a pas très longtemps, il y a 10 jours à peu près, par Elabe, qui montre bien que 42% des électeurs de François Fillon ont confiance en Emmanuel Macron. Et de la même manière, 37% de sympathisants de droite jugent que Marine Le Pen a les qualités pour être présidente de la République. C'est l'un des problèmes qui est posé. Et puis aussi, il ne faut pas l'oublier, c'est mon avis en tout cas, les Républicains n'ont pas fait leur deuil du retrait de Nicolas Sarkozy. C'est une droite qui est toujours sous influence. Nicolas Sarkozy pèse et compte encore au sein des Républicains. Donc, les difficultés des Républicains, c'est le désordre.
Ça veut dire qu'Emmanuel Macron a réussi son pari en 2017 en faisant exploser les codes et la gauche et la droite et qu'aujourd'hui, le duel Macron-Le Pen est inéluctable, Gérard Carrérou ?
Écoutez, je pensais qu'en 4 ans, les choses pouvaient bouger depuis l'élection présidentielle de 2017, élection caractérisée par le fait qu'il n'y a plus de gauche, il n'y a plus vraiment de droite unie, et qu'on a donc eu Macron qui a surgi. Ça me faisait penser un peu à Napoléon, cette année de bicentenaire, où Napoléon dirait « ma gauche est enfoncée, ma droite est éclatée, mon centre est inexistant ou évanescent, j'attaque ». Oui, mais sauf qu'il n'y a personne pour attaquer.
Ça, c'est 14-18.
Oui, et il n'y a personne pour... Oui, mais c'est un peu l'idée. Oui. Or, il n'y a pas...
C'est Foch.
Il faut quelqu'un qui, tout d'un coup, 604. Puisse sublimer, dépasser, comment on dit, transcender ces coupures. Ces deux électorats dont Charles vient de parler, la droite, elle est la droite. On peut presque dire ça. Majoritaire aujourd'hui dans le pays, probablement. Sociologiquement, elle est majoritaire. Politiquement, elle ne peut pas gagner parce qu'elle est coupée en deux. En gros, c'est ça l'équation. Et s'il n'y a
donc
pas...
Donc tu es d'accord avec moi.
Mais c'est bien pour ça que je te rappelle ce que tu viens de dire. C'est bien pour ça que ne pouvant pas, pour l'instant, tant qu'elle ne trouvera pas un homme qui soit acceptable pour les deux morceaux, eh bien, elle perdra. Alors, et elle perdra probablement le prochain coup.
Pas d'incarnation à droite, naturelle. Pas d'incarnation à gauche, naturelle. En revanche, si on se déplace le curseur encore plus à droite, du côté du Rassemblement national, il y a un visage, c'est celui de Marine Le Pen.
Oui.
Là, il y a une marque qui existe.
Oui, il y a une marque, c'est vrai. Mais quand on regarde un peu les études, le Front National, le mouvement, le Rassemblement national reste un parti tout à fait à droite, implanté, très bien implanté. Et bizarrement, son chef de file, c'est-à-dire Marine Le Pen, est moins considéré que le parti lui-même. Donc évidemment, ça ouvre la perspective de peut-être lutte au sommet éventuelle, encore que on ne les voit pas venir. Mais en tout cas, ça affaiblit un peu la personnalité de Marine Le Pen face à l'analyse dont tu parlais, Charles, c'est-à-dire une moitié... étant favorable, moitié de la droite étant favorable quand même au Rassemblement national, et l'autre moitié très tentée par Emmanuel Macron. Donc l'histoire de Marine Le Pen, et c'est très intéressant, parce qu'elle paye quand même toujours son débat raté.
De 2017,
de moins en moins.
En revanche, elle a fait de son mouvement un mouvement très important et même capital dans les élections qui viendront.
Ce qui va être intéressant, c'est de voir si elle a des élus régionales. Parce que là, au municipal, elle a perdu des élus plus qu'elle n'en a gagné. Et personne ne voulait faire de liste du Rassemblement national dans les petites villes. Parce que pour eux, dans les petites villes, c'était encore pas chic d'être sur une liste du Rassemblement national. Mais ce qui est nouveau, c'est qu'elle était l'autre jour devant la presse parlementaire à l'Assemblée nationale. Elle dit maintenant, quand je serai présidente. parce qu'elle croit qu'elle peut battre Macron. Elle se promène dans le pays et elle sent qu'il y a une détestation du président sortant, qui, il faut dire, a accumulé les ennuis depuis 5 ans et qui ne laissera pas de bons souvenirs parce que, à cause de ça, c'est une campagne difficile, quoi. Mais aussi, c'est qu'on voit aujourd'hui qu'en cas de duel au second tour, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo ne parviendraient pas à la battre.
Alors, donc match nul, gagnerait. Selon un dernier sondage IFOP entre Hidalgo et Le Pen de la semaine dernière. Et en revanche, en effet, 60-40 face à Mélenchon et Jadot qui perdrait également.
Il y a une remarque, parce que là, finalement, on est tous d'accord pour dire que les grands partis, de toute façon, ne se sont pas remis de la défaite de 2017. Mais il y a aussi deux grands partis qui restent structurellement très forts sur le plan territorial. C'est le Parti socialiste et ce sont les Républicains qui tiennent beaucoup de villes moyennes, qui ont perdu un certain nombre de grandes villes au profit des écologistes, c'est vrai, mais parce qu'il y a eu une abstention considérable. Bon, et c'est vrai que Catherine a raison de souligner qu'au régional, on va pouvoir se compter. Or, ce qui s'annonce pour La République En Marche n'est pas très, je dirais, élogieux.
Sous la Ve République, il me semble que toujours le candidat est plus important que le parti qui le soutient. Ce qui est l'énorme...
Pour la présidentielle.
Je parle de la présidentielle. Oui, or, effectivement, la grande faiblesse de Marine Le Pen, on peut prendre le sujet comme on veut, la grande faiblesse de Marine Le Pen, c'est Marine Le Pen. Et en même temps, elle est le leader et elle ne pourra pas être contournée, en tout cas pas cette élection-là. Donc, c'est pour ça que je me dis, on va vers un duel et le duel sera perdu par le Front National.
Un mot de conclusion et on change de débat.
Il y a des électeurs, il y a des partis, des formations dont on parle et puis il y a les électeurs. Or, de plus en plus de gens s'accordent à dire que maintenant les électeurs se sentent très libres vis-à-vis des leaders de leur parti, beaucoup plus libres, que l'électorat est volatile. Par conséquent, sur l'issue du débat, il faut vraiment être très 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 prudent.
Merci les grandes voix.
C'est pour ça... Tu as raison, Michel, parce que nous sommes dans une société atomisée, une société qui a beaucoup évolué avec les réseaux sociaux et qui finalement se penche en permanence sur ses portables, sur son iPad, etc., toutes les informations. C'est pour ça que le militantisme a beaucoup faibli, y compris au Rassemblement National.
Oui, qui évoquait 80 000 militants, je crois, en 2016, contre 20 à 25 000 aujourd'hui. Merci les grandes voix. Dans un instant, le deuxième thème de notre débat, la prudence du gouvernement pour le déconfinement, alors que la barre des 100 000 morts du Covid a été franchie cette semaine en France.